Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Et bonsoir à tous. Coucou. Hop hop, je vous fais des petits coucou à tout le monde. Tac tac tac. Alors, ce soir, nous recevons, sans plus attendre, Madame Florence Provendier, députée des Hauts-de-Seine, qui ne devrait pas trop tarder. Bonsoir.
Bonsoir Léa. Bonsoir tout le monde.
Comment allez-vous?
Très très bien. Alors, je vous vois comme ça.
Ouais, moi aussi, je peux me mettre comme ça.
Et moi, je suis comme ça.
Est-ce que vous auriez la possibilité de tourner votre téléphone et rentrer? Ouais, parfait.
Parfait.
Génial. La connexion a l'air très bonne.
Mais on est sur un territoire où il n'y a pas de souci de connexion.
Bon, super. Ça, c'est une bonne chose. C'est important parce que parfois, ça peut créer des mauvaises surprises, malheureusement. On a eu quelques difficultés. Bien, comment allez-vous?
Très, très bien. Je vous remercie.
Alors, où êtes-vous en ce moment?
Je suis à Issy-les-Moulineaux, chez moi.
Okay.
Je suis de la 10e circonscription des Hauts-de-Seine et c'est Issy-les-Moulineaux, Vanves, Boulogne. Et pour ceux qui ne savent pas où c'est juste derrière la porte de Versailles à Paris.
D'accord, très bien. Donc, comment ça s'est passé, vous, cette période de confinement pour vous?
Alors moi, la période de confinement, elle a commencé un petit peu avant tout le monde parce que j'ai attrapé le Covid à l'Assemblée.
Ah mince!
Voilà, j'ai été dépistée peu de temps après que la suspension des travaux. Donc, à partir du moment où j'ai su que j'avais, je me suis confinée strictement. Je n'ai pas dépassé le pas de ma porte pendant 15 jours. J'ai tenu avec un gros sac de riz, des oranges et beaucoup de Doliprane. Ça n'a pas été simple, mais je m'en suis bien sortie.
Ah oui, heureusement.
Et donc, quand je suis sortie de ce confinement-là, je suis rentrée dans l'autre confinement. Et je n'ai pas cessé de travailler de la maison depuis.
D'accord. Et donc, vous étiez combien de députés à avoir été dépistés positifs? Il y avait un certain nombre quand même, non, de mémoire?
Je ne sais pas, parce que finalement, il en va, j'allais dire, de notre santé perso. Certains l'ont rendu public, certains collègues pas. Et puis, il y a aussi un certain nombre de députés qui potentiellement, et ça, c'est vrai pour beaucoup de nos concitoyens, l'ont sans doute attrapé.
Sans le savoir.
Mais n'ont pas forcément été dépistés. Moi, j'ai eu aucun doute. Et comme je l'ai signalé à l'Assemblée, j'ai été contactée par l'Agence régionale de santé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été dépistée. Non, je pense qu'on est énormément... Enfin, il y a énormément de personnes qui potentiellement ont eu le Covid,
bien
ont sûr. Eu une partie des symptômes et n'ont pas forcément été dépistées.
Oui, bien sûr.
Un truc que je voudrais partager avec vous, parce que je trouve ça assez positif, et par les temps qui courent, j'aime bien tout ce qui est positif, même en temps normal. Suite donc à ma guérison, j'ai été contactée dans le cadre d'une étude qui est faite auprès de personnes qui ont attrapé le Covid.
D'accord.
Depuis plus de 14 jours révolus, pour qu'elles donnent leur plasma, dans lequel on retrouve des anticorps qu'elles ont développés pour combattre la maladie. Ils peuvent être, et le plasma peut être transfusé, c'est des personnes malades. Et donc, en ce moment, il y a une étude qui est menée pour voir si le plasma de personnes guéries qui ont développé des anticorps peut être un traitement pour des personnes en situation délicate du fait du virus.
Donc, c'est en guise de traitement, c'est pas en guise de vaccin à titre préventif.
C'est pas un vaccin. Mais donc, en fait, ils testent, ils sont en train de tester avec du plasma avec des anticorps et plasma sans anticorps pour voir comment ça se passe. Et moi, j'ai eu la chance d'en avoir développé plein, donc je peux donner tous les 15 jours mon plasma. Et donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à pas hésiter en ce moment à donner, alors atteint du Covid avant ou pas, donner son sang et son plasma. C'est des gestes solidaires qu'on peut faire. L'établissement français du sang disait qu'il y a plus d'un tiers de personnes nouvelles qui ont donné leur sang sur cette période de confinement.
Oui, c'est un bel acte de solidarité, une belle manifestation de solidarité, c'est bien.
Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais en tout cas, voilà, le confinement pour moi a commencé le 11 mars, mais il s'est arrêté un tout petit peu plus tôt, parce que la semaine dernière, j'ai siégé à l'Assemblée.
D'accord, j'allais vous demander justement comment vous étiez organisé, si vous aviez fait partie de la première vague de retour.
Non, pas la première, mais comme les uns et les autres le savent, donc au tout début, quand l'Assemblée a repris ses travaux autour des QAG le 19 mars, il y avait 3 députés par groupe, enfin c'était vraiment la portion congrue, et puis petit à petit on est passé à 75, donc la semaine dernière on était 75 dans l'hémicycle, donc 40 pour mon groupe, et puis là cette semaine ils sont 150.
Ah oui, 150, ouais. Enfin, très bien, bon, bah, super.
Et donc, 157, ce que tout le monde sait.
Et donc, vous tournez, c'est ça? Vous essayez de tourner
En fait, chaque groupe, en fonction du nombre de députés par groupe, a le droit à un certain nombre de députés. Pour La République En Marche, on a le droit à 80 députés. Et du coup, c'est sur la base du volontariat et puis par rapport aussi
aux thématiques,
aux examens de texte. Moi, je vous avoue, au mois de mars, déjà, il fallait que je guérisse de ce que j'avais. Ensuite, on peut considérer qu'une fois qu'on a attrapé le Covid, même guéri, il peut y avoir une période
d'incertitude.
Voilà, il faut s'assurer qu'on est bien guéri. Et puis après, l'intérêt aussi de postuler pour participer à des travaux, c'est d'avoir des compétences et des appétences. Mais donc là, moi, je vous parle du travail dans l'hémicycle par rapport. Donc la semaine dernière, c'était la prorogation du projet de loi d'urgence sanitaire. On a beaucoup échangé sur 6 articles, mais dès début avril, au sein de la commission dans laquelle je siège, c'est-à-dire celle des affaires culturelles et éducation, on s'est mis en mode task force dans le cadre de groupes de travail, 6, pour appuyer les travaux du président Studer, donc qui préside la commission des affaires culturelles et l'éducation, autour de toutes les thématiques de la commission, culture, sport, médias, associatif, éducation. On a reçu dans le cadre de la commission tous les ministres. Alors quand je dis on a reçu, bien dans le même format que celui qu'on est en train de partager en ce moment, en tout cas en visio. Puis moi j'ai co-animé un groupe de travail avec Elsa Fossillon pendant près d'un mois sur l'impact de la crise Covid sur les médias et l'industrie culturelle.
Ah oui, en effet, ouais.
Donc on a auditionné en moyenne 4-5 acteurs, voire bon, 3-4-5 acteurs du secteur chaque semaine, passant de l'industrie du livre, cinéma, des médias publics, privés, radio. Voilà.
Bien sûr. Et c'est de cette initiative qu'ont été décidées les mesures de soutien à l'industrie?
Ça a alimenté. Alors, si je reprends par exemple pour la culture, très clairement, on a été force de proposition. Auprès du ministre. Moi, même avant que le groupe de travail soit lancé, j'avais interpellé au travers d'une question écrite du ministre sur la précarité des pigistes. Il y a eu un décret qui a été rendu. Et c'est clair que par rapport à un certain nombre de points, j'allais dire, sensibles sur le statut des intermittents, sur la difficulté de reprendre les tournages, sur un sujet qui revient et pour lequel on se bat, c'est le maintien de France 4 qui est devenue une chaîne éducative à part entière.
Ouais.
Clairement, en tant que on a fait connaître nos avis suite à ces auditions.
Ouais, c'est intéressant. Et donc, le gros serpent de mer, si je puis m'exprimer ainsi, actuellement à l'Assemblée nationale pour la commission de la culture, c'est quand même le projet de réforme audiovisuelle, non?
Alors, je ne sais pas si c'est un serpent de mer. En tout cas, il est plus que jamais d'actualité. Et d'ailleurs, le président de la République l'a confirmé et affirmé lors de son allocution, c'était mercredi dernier, quand il s'est adressé au monde de la culture, en disant qu'il y avait quand même une urgence absolue à transposer. Alors, vous me direz, hein, si je parle trop techno, la directive SMA qui permet effectivement de réguler les asymétries qu'il peut y avoir sur la contribution des plateformes GAFAN au financement de la création. Ça, ça faisait partie du projet de loi audiovisuel. Oui. C'est court, hein, le projet de loi de l'audiovisuel qu'on examinait en commission juste avant la suspension de séance et juste avant le confinement. Elle a quatre grands blocs. Il y avait deux transpositions de directives européennes. Donc, de toute façon, il va falloir qu'on passe parce qu'on a...
C'est une obligation.
Et puis, il y avait deux autres sujets qui sont la création de l'ARCOM, qui est finalement la réunion du CSA et d'Adopi d'une part, et la création de France Média. Mm-hmm. C'est là où il y a une véritable urgence. Alors après, je ne sais pas sous quelle forme ça passera dans les prochains mois, mais on est presque dans l'obligation de transposer les deux directives à la protection de notre souveraineté et par rapport aux contributions des gros acteurs, des plateformes de streaming au financement de la création. Et on va en avoir vraiment besoin. Et encore plus maintenant.
Bien sûr. Non, c'est vrai qu'il y a une obligation communautaire. Sinon, je crois qu'il peut y avoir des recours en manquement qui peuvent être exercés à l'égard des États qui transposent.
Donc, de fait, les morceaux de ce projet de loi, on va devoir absolument examiner sans tarder, de tête, avant fin septembre.
Bien sûr, ouais. Après, bon, peut-être compte tenu du contexte, peut-être qu'il y aura des assouplissements du côté de Bruxelles sur ces transpositions, je ne sais pas.
Bah, c'est pas dans la... Enfin, ça, c'est plus... si on veut être protecteur, plutôt intérêt à les renforcer qu'à les assouplir. Ça dépend dans quel sens on voit...
Ah, bien sûr. Dans l'obligation de transposition, j'entendais peut-être qu'ils vont laisser un délai supplémentaire, étant donné les circonstances, je ne sais pas.
C'est une mauvaise nouvelle. Parce qu'au plus vite on transposera, au plus vite les GAFA devront contribuer au financement de la création en France.
Donc ça, c'est un projet sur lequel vous travaillez beaucoup, vous, directement ?
Je m'en suis emparée, d'une part par appétence, parce que je trouve ça absolument passionnant, mais aussi, on pourra creuser, mais je suis sur une circonscription où il y a énormément de médias. Ici,
Bien sûr.
Il y a France Média Monde, il y a Eurosport, il y a TF1, de l'autre côté du boulevard, il y a France Télévisions. Et donc, assez naturellement, quand je suis devenue députée, je suis allée voir les acteurs de ma circonscription, et dont les grands médias. Il y a Orange qui va arriver, il y a Canal+. Enfin, j'essaye d'être exhaustive parce que je ne voudrais pas mécontenter quelqu'un en oubliant quelqu'un. Mais donc, de fait, en les rencontrant depuis le début de mon mandat, j'ai été sensibilisée à leur particularité, à leur problématique. Et donc, c'est assez naturellement, quand s'est dessiné le projet de loi, que je me suis engagée pour le groupe en tant que responsable de texte. Il y a une autre chose que j'ai faite aussi en novembre dernier, c'est une mission flash sur les quotas de radio, de chansons francophones à la radio.
D'accord.
Et on avait mis aussi un pied à l'étrier parce que l'audio a toute sa place dans l'audiovisuel.
Bien sûr, parfois on a tendance à l'oublier, c'est vrai.
et il semblerait, alors selon les études, alors j'ai plus forcément les sources en tête, la radio serait le média préféré des Français, encore.
Ah oui, c'est intéressant.
Et accompagne chacun, alors de tête, 68% des gens écoutent la radio, et notamment le matin.
Bien sûr.
Ça va de plus en plus aussi maintenant sur des podcasts et d'autres modes de consommation, mais la radio est véritablement un média qui nous accompagne.
Oui, c'est vrai que c'est pratique. Moi, je me souviens quand j'étais à l'étranger, c'était facile d'écouter les rediffs de podcasts de France Culture, des choses comme ça. Ça nous permet de nous rattacher quand même un peu à ce qui se passe, ou de France Inter, peu importe. Non, c'est vrai. Et Radio France, par ailleurs, a très vite développé une offre de podcasts.
Assez remarquable. Et ce que je pourrais aussi souligner en cette période de confinement, c'est que nos grands médias publics ont été absolument remarquables par rapport à la qualité des contenus qu'ils ont été en capacité de proposer, par rapport à l'adaptation à la crise, parce qu'ils avaient tous quand même cette priorité absolue qui était de dire d'abord la sécurité de nos personnels, mais ensuite, et en même temps, la qualité des programmes que l'on propose, étant entendu que les gens vivaient différemment et que l'attendu était différemment. Ça a été aussi une vitrine incroyable par rapport à des grandes scènes auxquelles on n'a pas accès par ailleurs. Et d'ores et déjà, c'est vrai, chez Radio France, au travers de podcasts, et c'est vrai chez France Télévisions au travers d'investissements, ils sont déjà en train d'investir sur de la prod parce que tout est arrivé à ce moment.
Bien sûr, j'imagine. Et c'est vrai que c'est une vraie question. On ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer. Espérons bien, dans la mesure du possible.
Bah, les mesures qu'on prend, alors que ce soit effectivement la prolongation de l'état d'urgence, mais enfin, ça c'est plutôt le cadre général. Et en ce moment, à l'Assemblée, ils sont en train d'étudier, enfin mes collègues sont en train d'étudier tout un tas de, d'ordonnances qu'on pourrait aider le gouvernement à passer. L'objectif, c'est effectivement de prendre un maximum de mesures pour essayer d'accompagner au mieux cette période qui finalement a un début. Mais on ne sait pas quand elle s'arrêtera, parce que tant qu'on
n'aura pas
de remèdes ou de vaccins, on vivra avec cette épée de Damoclès sur la tête. Hein.
Ouais, c'est
donc, il va falloir qu'on apprenne à vivre autrement. Mais dans ce vivre autrement aussi, moi, ce que j'ai pu constater, ça m'a beaucoup touchée. Bon, vous savez que je viens de l'humanitaire. Si vous ne le savez pas, je le dis.
On va en parler, j'espère.
C'est que j'ai trouvé plein d'élans de solidarité qui étaient... enthousiasmant. Je trouve que les crises, ça met en exergue, ce qu'il y a de pire, mais si c'est meilleur. Et localement, et même à d'autres niveaux, je trouve qu'il y a eu plein d'élans de solidarité remarquables. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on sera en capacité de continuer à les faire vivre.
Ouais. Bon, bah super, vous me donnez une transition toute trouvée, toute faite. Parlons justement de vous, maintenant qu'on a un peu balayé ces questions fondamentale, bien sûr, mais de ce que vous faites en ce moment à l'Assemblée, comment les choses se profilent. Parlez-nous un peu de vous, de comment vous êtes arrivée là où vous êtes aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, c'est votre premier mandat à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas?
Et en plus, je suis arrivée en cours de route. Hein.
Donc, vous allez nous expliquer un peu, si ça ne vous dérange pas, comment vous êtes arrivée, qu'est-ce que vous avez fait en premier, comment vous avez aussi, et pourquoi vous avez décidé de vous engager naturellement et de devenir députée aujourd'hui. Comment vous avez pris la décision aussi de rejoindre la commission des affaires culturelles, de l'éducation? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Et puis peut-être, si ça ne vous dérange pas, nous donner un petit peu d'éléments sur votre parcours aussi.
Alors, je vais commencer par la fin, je vais remonter vers le début.
Allez-y.
Il n'y a pas de sens obligatoire, hein?
Non, pas du tout.
Bon. En fait, j'ai un double parcours professionnel et dans le privé. J'ai été dirigeante pendant une vingtaine d'années. Et ensuite, dans l'humanitaire. Et alors... je vais dire, l'herbe, elle n'est pas plus verte dans un secteur que dans un autre. Quand j'étais dans le privé, j'étais pas mal engagée dans des associations. Et par ailleurs, j'ai mis en place deux stratégies RSE qui m'a permis aussi de travailler et avec des associations. Et j'allais dire de redonner peut-être du sens dans des entreprises qui avaient peut-être une image très financière, on va dire ça.
Mercantile peut-être,
Oui, et encore, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'alliances entre le privé, le public et l'associatif. Et d'ailleurs, au travers de mes jobs, dès l'an 2000, c'est des choses que je me suis exercée à mettre en œuvre en travaillant avec des missions locales, travaillant avec le Programme alimentaire mondial, travaillant avec les associations qui aidaient des personnes en situation de handicap. Donc voilà, j'ai bossé plus de 20 ans dans le privé. Et puis, un jour, je me suis faite dégager en 10 secondes suite à un changement de président. J'avais été recrutée par un président, ça a changé de président, donc ça va très vite. Et là, je me suis dit, bon, c'est le moment de réfléchir. Je suis partie à composer la pied toute seule. Ça m'a donné le temps de décompter. Et quand je suis rentrée, j'étais certaine que je voulais faire de l'humanitaire. Et donc, qu'est-ce que je sais faire? Je ne suis pas avocate, je ne suis pas infirmière. Mais qu'est-ce que je sais bien faire? Je sais bien gérer des boîtes, je sais bien les développer. Et qu'est-ce que j'aime particulièrement? C'est pouvoir venir en aide aux enfants. Donc, j'ai mis les deux choses. J'ai tout mis ensemble. Et puis, j'ai tricoté mon projet. Je me suis retrouvée à diriger une ONG qui vient en aide à des enfants à travers le monde pendant 6 ans. Super. Et parallèlement, je me suis engagée dans d'autres associations et avant... Et encore maintenant, parce que ce n'est pas parce que je suis députée que je suis plus engagée dans l'humanitaire, dans des associations qui viennent en aide à des enfants. Voilà, et l'humanitaire, comment je suis passée en politique? Je m'étais dit, je ne ferai jamais de politique. Alors, je pense que déjà, s'engager, c'est d'une certaine façon faire de la politique. consommer, c'est aussi faire de la politique, enfin, en fonction de comment on agit, ce que l'on achète.
Bien sûr.
Quand on est, ce que j'ai découvert aussi dans l'humanitaire, c'est que c'était extrêmement politique. Quand vous êtes à l'ONU pour défendre des combats, il faut savoir naviguer, il faut savoir convaincre, il faut savoir influencer dans le sens positif du terme. Et puis, ce qui s'est passé fin 2016-2017, c'est quand finalement, quand Emmanuel Macron s'est déclaré candidat à la présidence de la République, j'ai un peu regardé ce qui se passait. Ce phénomène nouveau m'a interpellée. Je suis allée à quelques réunions. Je me suis retrouvée assesseur pendant les élections présidentielles. Ça m'a permis de rencontrer les uns les autres. Et pas mal de gens, parce que finalement, ce que je ne vous dis pas aussi, c'est que j'ai été engagée chez les parents d'élèves pendant une vingtaine d'années. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas là par hasard. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Gabriel Attal, qui se portait candidat aux législatives. Mm-hmm. Il m'a demandé d'être sa suppléante. Alors, j'ai réfléchi, j'ai hésité. Et je lui ai dit, mais pourquoi pas, parce que je vais aller jusqu'au bout de la démarche.
Ouais.
Et Attal s'est fait élire. Enfin, nous avons été élus, parce qu'en fait, c'est
un homme. Il y a un couple, en juin, bien sûr.
En juin 2017. Il est devenu secrétaire d'État en octobre 2018. Et moi, je suis devenue députée sans y être préparée. En novembre 2018, le jour qui était en fait l'acte 1 des Gilets jaunes.
Ah, d'accord.
Pour donner un peu de piment à l'histoire.
Ouais.
Assez tendu.
Oui, j'imagine le contexte, en effet. Donc, vous n'étiez pas du tout préparé, vous n'attendiez pas du tout à ce que Gabriel Attal obtienne un poste au gouvernement.
Alors, oui, parce qu'en apprenant à le connaître, son recul de flagornerie, enfin, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de puissant, avec du potentiel humain. Et enfin, finalement, quand c'est arrivé, ça ne m'a pas étonnée. Mais c'est vrai que quand je m'étais engagée à le soutenir en tant que suppléante, c'était de dire, OK, tu deviens députée, je fais un peu de coordination, je te représente à l'occasion parce que la chose publique m'intéresse et ça me plaît. Mais pour moi, c'était députée et moi, je continue ma vie.
Bien sûr, vous n'attendiez pas à rejoindre les rangs de l'Assemblée nationale peut-être aussi rapidement. Voilà.
Et ce qui est terrible, c'est que j'y prends goût.
C'est marrant quand même comme... c'est une circonstance un peu particulière, parce que la majeure partie des députés qui siègent aujourd'hui étaient les premiers, en fait, à siéger. Ils ne sont pas des suppléants, donc c'est assez particulier, c'est intéressant.
Voilà, et donc, on apprend par tâtonnement. Alors, j'ai quand même, même si je n'ai pas fait les études ad hoc, même si je n'étais pas présentée, j'ai quand même un petit peu d'expérience professionnelle. Et notamment au niveau des affaires publiques, et comme je vous le dis. Et donc, après, pour répondre à la question de la commission, il se trouve que, la commission affaires culturelles éduque, c'est aussi vie associative sport. Et donc, vie associative, c'est vraiment un sujet sur lequel je suis engagée depuis une dizaine d'années, d'une part. Ensuite, l'éducation, pour moi, c'est un des combats que j'ai mené justement dans mes précédents clubs et dans les associations dans lesquelles je suis, parce que pour moi, l'éducation, c'est au moins aussi important que la santé pour permettre à chaque individu, quel que soit l'âge, de s'émanciper et d'être finalement libre de ses choix. Donc finalement, et puis la culture, j'allais dire plus par amour, parce que je trouve que la culture, c'est ce qui permet de nous dépasser, c'est ce qui nous permet aussi de communiquer de façon harmonieuse. Alors, ça, c'est peut-être un peu idéaliste ce que je dis, mais voilà, vous me posez la question, moi, je vous réponds en fonction de ce que je suis. Et puis, ce que j'ai découvert en arrivant à la Commission des affaires culturelles et l'éducation, c'est commencer à travailler sur le texte de l'école de la confiance. J'avais beau avoir une expérience de 20 ans de parent d'élève, c'est une chose d'être parent d'élève, c'en est une autre de comprendre tout le fonctionnement de l'éducation nationale, et je peux vous dire que ça a été reine.
Oui, j'imagine, c'est...
Voilà.
C'est certain. Bravo en tout cas. Ouais.
Il y a plein de technicité parce que. Et la chance extraordinaire que j'ai, c'est que finalement, j'apprends des tonnes de choses que j'aurais jamais apprises par ailleurs.
Ouais, j'imagine qu'on apprend beaucoup. Ouais.
Je peux apporter finalement toute cette expérience et toute cette interaction que j'ai justement, que j'ai conservée.
Quels sont vos combats en tant que députée qui siège actuellement? Quels sont vos principaux combats pendant ce mandat?
J'en ai un avant toute chose. Et c'est le même que je mène depuis 2010. Et finalement, c'est une chance d'être là où je suis pour le mener. C'est la défense des droits de l'enfant. Dans notre pays, il y a 15 millions d'enfants et de jeunes. Et ce dont on se rend compte, qu'on soit dans un pays développé ou en voie de développement, on a plus ou moins des problématiques quand même qui se recoupent, et notamment l'impact des violences faites aux enfants. Pour avoir bossé en amont, pour avoir travaillé en amont des objectifs du développement durable, je parlais de l'ONU tout à l'heure, on se rend compte que quels que soient les pays, les enfants sont victimes de la même façon de violence. Alors, pas les mêmes types de violences, mais de violences aussi. On se rend compte aussi que dans nos institutions, et en tout cas à l'Assemblée, j'ai porté une résolution de telle sorte à ce que ça soit pris en compte, mais finalement, on n'écoute pas tellement les enfants par rapport aux décisions qu'on prend. J'en veux pour preuve cette période de confinement. Il y a tout un tas de choses remarquables pour que les enfants puissent retourner à l'école le plus rapidement possible. Et pour moi, c'est absolument fondamental. Les enfants ne sont pas faits pour être enfermés. Néanmoins, à quel moment on a intégré dans nos réflexions et nos prises de décision la voix et la vie des enfants? Et donc aujourd'hui, je parle des droits de l'enfant en général, mais ce qui me préoccupe en particulier, c'est effectivement les violences physiques faites aux enfants dans les familles. Il y a un enfant qui meurt tous les 4 jours sous les coups de ses parents. La problématique des enfants placés ou confiés à l'aide sociale à l'enfance, ils étaient 200 000 en 2000, ils sont près de 350 000 aujourd'hui, avec des endroits où ça se passe plutôt bien, des endroits où ça se passe plutôt moins bien. Aujourd'hui, c'est une politique qui est pilotée par les départements, et donc en fonction des départements, il y a des asymétries monumentales. Un autre sujet qui me préoccupe énormément, c'est le cyberharcèlement ou l'exposition des enfants à la pornographie en ligne. On se rend compte aujourd'hui que 40% des gamins de moins de 11 ans, ont été exposés à de la pornographie en ligne, avec l'incidence que ça a. Et donc voilà, si on prend la violence dans l'absolu, les enfants de l'ASE, j'ai participé à une mission d'évaluation au niveau du Parlement, et tout ce qui touche à Internet et les contenus en ligne adressés aux enfants, alors c'est un grand combat, mais c'est 3 sujets sur lesquels je travaille, plus particulièrement avec certains de mes collègues à l'Assemblée nationale. Je suis partie du groupe d'études droits de l'enfant, et on essaie de travailler de concert et avec les associations, et avec le ministre, et avec la défenseur des droits, pour essayer de faire avancer ces droits de l'enfant, dont on a signé la convention il y a 30 ans.
Oui, absolument. C'est un très
bon point. Et alors, ce que j'ai découvert, et c'était ça qui était plutôt chouette, c'est que moi, je me battais pour des enfants partout à travers le monde, pour je combats l'excision, le fait aussi qu'il y ait près de 300 millions d'enfants qui ont fait certificat de naissance, etc. Et donc, j'allais dans tout un tas de pays. Et puis, aujourd'hui, je suis en France et je me rends compte qu'en France, sur les 15 millions d'enfants, il y a 3 millions qui sont des enfants pauvres. Ça interroge. Alors, je ne vais pas vous sortir des statistiques, mais il y a de quoi faire dans notre pays, quoi, à côté de chez soi.
C'est certain, oui. Moi, j'ai travaillé sur la question des mineurs isolés étrangers. J'ai fait un podcast là-dessus et c'est vrai, vous parlez de la disparité entre départements, et là c'est particulièrement vrai aussi, en effet. Ça, c'est... En tout cas, bravo, ce sont de très beaux combats.
Et alors, justement, vous me dites mineurs isolés, ça me permet de faire aussi le lien entre le national et après le local. Au niveau du département des Hauts-de-Seine, bon, il y aurait pas mal de choses à dire sur le social à l'enfance, mais ce que j'ai pu faire aussi pendant la période de confinement, c'était appeler les foyers qui accueillent des enfants de l'ASE et les mineurs aussi dans les foyers, pour s'assurer qu'ils avaient bien des ordinateurs pour pouvoir poursuivre l'école.
Bien sûr.
Et ma première sortie que j'ai faite, alors un tout petit peu avant la semaine dernière, c'était la semaine d'avant, avec un masque, c'est que je suis allée visiter des jeunes en foyer d'accueil à Meudon.
D'accord.
Foyer géré par les apprentis d'Auteuil.
Oui, oui, je vois très bien.
Ils étaient 24. Ils ont vécu complètement confinés et on a partagé sur leur confinement et l'après. Et ils étaient hyper inquiets par rapport à leurs études, par rapport fait qu'ils allaient bouger. Et on a un vrai sujet là-dessus aussi.
Oui, ça c'est certain, ouais, absolument. Au moment où ils rentrent dans la majorité aussi, cette phase très compliquée à gérer.
Voilà, où on a fait aussi, enfin, quand je dis on, à chaque fois, j'y associe les collègues avec qui je bosse et sur le sujet, et on n'y pense pas toujours, parce que c'est quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers, mais de dire finalement, aujourd'hui, les jeunes qui n'ont pas de famille, enfin, de moins de 25 ans, qui ne sont pas scolarisés, qui n'ont pas de job, ils ne touchent pas le RSA. Donc, non, on avait des mineurs, alors, enfin, pas des mineurs, pardon, là, des majeurs, pour le coup, sans école, sans rien, et qui se sont retrouvés au moment du confinement dans des situations terribles. Alors, il existe des réseaux d'anciens enfants placés qui font des choses extraordinaires, mais c'est toutes ces petites choses que j'essaie, j'allais dire, de passer sous le radar, et je ne suis pas toute seule, je travaille énormément avec une de mes collègues qui s'appelle Perrine Goulet, et on essaye sur ces sujets-là d'être en veille et d'alerter.
Ouais. Bravo en tout cas. Alors c'est intéressant parce que vous avez donc cette expérience, j'imagine que pendant vos précédentes fonctions en tant que directrice donc, de l'ONG pour le droit des enfants dont vous parliez, vous avez dû faire du plaidoyer, j'imagine, auprès des instances internationales, vraisemblablement, vous citiez l'ONU plus tôt, mais peut-être aussi au niveau national, que ce soit dans des pays étrangers ou même en France. Donc, j'imagine que vous étiez de l'autre côté de la barrière en essayant de pousser un peu les gouvernements à changer les politiques publiques. Et aujourd'hui que vous êtes députée, est-ce que vous avez les outils, d'après vous, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir les outils nécessaires, oui, c'est ça, surtout les outils nécessaires pour faire changer les choses véritablement.
Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, parce que quand je me suis retrouvée députée, je me suis dit, mince, comment je vais pouvoir poursuivre ce qui a été mon engagement et mon combat pendant 6 ans. Et finalement, donc, il m'a fallu quand même un certain temps pour comprendre, pour mieux comprendre de l'intérieur les rouages, comment ça fonctionne, etc. Après, on est 577 députés, il y a un gouvernement, et puis il y a un ordre mondial, et puis il y a des équilibres. C'est pas si simple que ça, mais finalement d'être à l'intérieur, c'est quand même extrêmement intéressant pour essayer de faire bouger certaines limites, certaines barrières, essayer de faire avancer des causes, parce qu'on est au bon endroit, parce que là aussi on peut travailler avec d'autres députés, on peut proposer des lois, on peut être force de proposition auprès du gouvernement, et puis si on s'aligne, on est d'autant plus audible. Et quand ensuite on s'aligne avec des associations, ça peut faire un peu plus de bruit. Malheureusement, les enfants n'ont pas de poids politique, ils n'ont pas de poids économique, et je pense qu'on a encore un grand chemin à parcourir. Moi, je me dis, finalement, si je peux être ne serait-ce qu'un éclaireur par rapport à ces choses-là, et à ma mesure, en fonction de ce que je suis et ce que je peux, faire entendre la voix, plaider la cause et essayer de faire avancer des sujets, j'aurais rempli mon mandat, peut-être pas parfaitement, mais en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de l'incarner.
Et si jamais demain, Gabriel Attal perd son poste de secrétaire d'État et que vous devez lui laisser sa place?
Alors moi, j'ai
j'imagine que vous l'imaginez, mais comment vous appréhendez ça, cette possibilité?
Alors déjà, j'y crois pas une seconde parce qu'il est franchement bon. Et que je ne le vois pas ne plus être ministre d'ici à la fin de la mandature. Mais si toutefois, pour une raison qui m'échappe, ça devait arriver, en fait, alors il y a la version officielle et puis il y a la version officieuse. J'allais dire, je suis très sereine. Parce que je me disais, mais si ça s'arrête, je partirais volontiers faire le tour du monde. Après, la question, c'est dans quel sens? Est-ce que c'est du nord au sud? Est-ce que c'est du sud au nord? Et de quel monde veut faire le tour?
J'espère qu'on sera parfaitement déconfinés d'ici là, parce que sinon...
ce qui n'est pas très écolo, quelqu'un, ça serait à pied, mais est-ce que c'est aussi le monde dans lequel je veux m'engager? Peut-être depuis à côté de chez moi. Donc, je n'ai pas encore la réponse, mais en tout cas, j'ai vachement de pistes. Donc, ça, c'est assez excitant.
Oui, je comprends. Vous n'avez l'air pas trop inquiète. Non, mais oui, je suis d'accord avec vous. J'imagine qu'il va certainement rester au gouvernement, mais... Comme vous n'étiez pas préparé à rejoindre les rangs de l'Assemblée aussi rapidement, peut-être que, on ne sait pas.
Après, on peut aussi se poser, vous voyez, la question dans 2 ans. Eh bien, je n'y ai pas encore répondu parce que c'est déjà tellement intense aujourd'hui que je viens
de vous la poser.
je m'engage pour aujourd'hui et finalement, je me fais confiance.
Bravo. c'est important. Peut-être une petite question un peu plus institutionnelle, disons.
Oui.
Maintenant que vous savez comment fonctionne l'Assemblée nationale de l'Intérieur, comment fonctionnent aussi les prises de décision, comment s'exerce le pouvoir concrètement, s'il y avait quelque chose à changer pour améliorer peut-être notre système démocratique, qu'est-ce que ce serait, d'après vous ?
Alors, je me permets de prendre 2 secondes pour réfléchir.
Bien sûr.
Parce que ça, c'est une question grave.
Vous pouvez citer plusieurs choses. C'est pas grave.
Moi, je pense que il faut qu'on privilégie absolument la meilleure représentation possible de l'ensemble des citoyens. Qu'il ne faut pas que le monde politique soit une caste à part, qui légifère dans sa bulle, et puis de l'autre côté, les citoyens. Et moi, au plus, il y aura de porosité. Mmh. Effectivement, ce monde qui peut être critiqué, où finalement, moi, je me rends compte que j'ai plein de collègues qui, comme moi, viennent de la société civile. Et il faut qu'on crée les passerelles. On parlait du CESE, on parlait de... Et je pense que d'ailleurs, ce qui est en train de se dessiner aujourd'hui, on n'a pas encore parlé du monde d'après, on est en plein déconfinement, mais voilà, il faut qu'arriver à un moment où il n'y ait plus de clivage entre le politique et l'ensemble des citoyens, mais qu'on soit en capacité, dans l'intérêt général, de travailler de façon beaucoup plus étroite ensemble. Alors, je ne parle pas de quantité et de formules magiques, mais je pense qu'on pousse tous à gagner. Ce que j'ai appris au travers de mon parcours, puisque j'ai été en entreprise, dans l'humanitaire, et parlementaire, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Il n'y a pas un meilleur monde qu'un autre monde. En revanche, si on veut aller de l'avant et si on veut travailler pour le bien commun, c'est fondamental qu'on soit en capacité de travailler ensemble. Et alors c'est peut-être un chouïa utopiste, mais en tout cas, moi, ça serait mon souhait.
Ouais, c'est plutôt une bonne réponse. J'étais obligée de vous poser la question parce que Place du Palais Bourbon, c'est l'objectif du podcast, c'est de reconnecter élus et citoyens, donc je devais nécessairement vous poser la question. Mais c'était très intéressant, en tout cas, vous avez raison. Donc, on a très brièvement abordé la question. On est en train de vivre une crise quand même assez difficile, qui est surmontable. À quel prix, je ne sais pas. Il y aura forcément des sacrifices à faire, et il y aura forcément des mesures à prendre de manière très rapide. Dès que la crise se sera un peu estompée, en tout cas je parle de la crise sanitaire, parce que malheureusement elle va déboucher sur une crise sociale et économique assez importante, c'est déjà le cas. Qu'est-ce que d'après vous, quelles doivent être d'après vous les mesures qui doivent être prises de manière prioritaire dans le monde d'après, de sorte à essayer de sortir un peu de la crise que l'on va forcément traverser?
J'ai envie de faire un parallèle avec justement mon expérience d'humanitaire. J'espère que vous ne m'en voudrez pas.
Je vous en prie.
Quand on est confronté à un tsunami, un tremblement de terre, il faut prendre des mesures d'urgence. Et j'allais dire à l'extrême limite, il ne faut pas se poser de questions, il faut sauver les gens.
Bien sûr.
Voilà. Donc ça, c'est un. Et là, on en est là.
On est sur de l'urgence, ouais.
On est sur de l'urgence. Mmh. Et après, il faut reconstruire. Mmh. Et après, toute la question par rapport à la reconstruction, c'est soit on reconstruit comme avant, et là je refais le parallèle avec l'humanitaire, donc on s'expose au même risque, parce que finalement s'il y a une digue qui pète et que ça engloutit un territoire, si on reconstruit la même digue, ça risque de repéter et de réengloutir le territoire, ou alors on apprend ce qui nous est arrivé et quelque part on envisage l'avenir en intégrant cette nouvelle donne. Aujourd'hui, ce qu'on est en train d'apprendre, c'est que on peut avoir une société quand même, une société beaucoup plus solidaire. En tout cas, c'est ce que moi je constate. On se rend compte aussi que par rapport, au décarbonage, par rapport aux énergies, par rapport aux moyens de transport, il faut quand même qu'on revoie complètement notre copie. Par rapport au partage de la valeur entre l'entreprise, l'associatif et le reste, il faut qu'on revoie complètement l'entreprise. Et pour ça, je trouve qu'on a une feuille de route qui est très intéressante. J'en parlais tout à l'heure, c'est les objectifs du développement durable. Les objectifs du développement durable, donc tels qu'ils ont été adoptés par l'ONU il y a maintenant 5 ans, il y a échéance 2030, nous donnaient comme cap partagé avec les 193 pays signataires, dont la France. Et l'idée, c'est de dire, on ne peut pas envisager du social sans prendre en compte la partie écologique. Sachant que le financier, pour moi, c'est finalement, si on prend un modèle, le financier est au service d'un projet.
Et alors, ça ne peut pas être le projet.
Donc, ce que j'espère, c'est que les générations futures pour lesquelles on bosse aujourd'hui vont nous piquer les fesses hein, pour nous obliger à sortir de nos modes de pensée programmés et envisager le monde sous un prisme un peu différent. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, on avait un échange avec les députés de la majorité et le ministre des Transports qui nous confirmaient. Alors après, il y a aussi la pression des entreprises qui ont des équilibres financiers qui ont été construits selon un modèle. Donc tout ça, il va falloir aussi accompagner le tournant. Et pour moi, c'est ça qui va être extrêmement compliqué. C'est comment on va aborder le virage et pour aller vers quoi. Et dans ce virage, c'est là où il y a le risque d'avoir beaucoup de décrocheurs, hein, et je parle d'entreprises notamment, parce que si on n'a pas anticipé, si on n'a pas de solution de repli, si on n'est pas en capacité de se réinventer, ça peut créer des grosses distorsions.
Oui, c'est certain. Ouais. Et comme vous le dites, ça risque de répéter.
On n'est pas à l'abri non plus. Enfin, je ne veux pas agiter le spectre de la peur parce que la peur est vraiment un mauvais moteur. Mmh. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et en tout cas, je pense que la nature est en train de nous dire, voilà, elle refleurit, les animaux ils reprennent leur droit, on respire de mieux en mieux. Et je pense qu'il faut qu'on apprenne. Enfin, je pense que décemment, on ne peut pas repartir comme en 14, tête baissée, le nez dans le guidon. On n'a rien appris.
Bien sûr. Dans ce cas, ce serait un échec.
Ouais. Voilà.
Non, bien sûr, tout à fait.
Donc, moi, ce que j'espère, c'est que vraiment, on aura la sagesse. Alors, c'est peut-être là où j'ai un petit doute de se dire reconsidérons le modèle économique, social et écologique.
Bien sûr, c'est l'occasion.
Pour une plus grande justice sociale. Mais parce qu'en protégeant la planète, on protège qui au final? C'est nous.
Nous-mêmes. Ouais. Oui, on est indissociable de la planète. On est
parce
un élément.
Dans 20 ou 25 ans, tout pouvait exploser.
Bien sûr.
En fait, il y aura un scénario catastrophe.
Oui, c'est certain.
Bah, je suis chez moi, donc il y a des gens qui passent. Donc,
je peux vous pas inquiétez pas, j'ai exactement la même chose. Je focus mais, sur le temps, mais il y a un peu de mouvement aussi.
Et là, elle est en train de faire le pit derrière la vitre, donc je suis désolée.
Alors, je vous livre une petite anecdote qui m'est arrivée hier. C'était très amusant en enregistrement pour le podcast. J'ai fait une interview de Cécile Duflo. Et pendant l'interview, son chat a vomi sur le tapis.
Son chat a vomi. Ah, mais c'est dégueulasse.
Ah oui, c'était très drôle. Après, elle l'a retweeté. C'était très marrant en disant, bon, bah, super interview, malgré le chat qui vomit derrière mon dos. C'était très marrant. Comme quoi, les joies du direct et du confinement, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est très drôle. J'ai une petite question pour vous.
Oui.
Que je me pose moi-même. J'ai aussi travaillé dans l'humanitaire et le développement à l'international. Et je m'intéresse aussi beaucoup aux politiques, aux politiques publiques et à la politique de manière générale. Vous qui avez la chance d'avoir connu l'humanitaire et donc être passé maintenant du côté décideur public, est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois, mais vous devez avoir la réponse que moi je n'ai pas parce que je n'ai jamais franchi cette barrière côté décideur public, que les associations interviennent, surtout dans ce qui est du développement, mais parfois l'urgence aussi, là où l'État a échoué.
Il y a toujours une complémentarité entre les associations et l'État. On voit en France, les associations jouent un rôle hyper important, et d'ailleurs, pour certaines, enfin, elles sont quand même subventionnées. Je pense que il y a une vraie complémentarité. Et puis, pourquoi opposer aux associations et État? Parce qu'on voit aussi que les collectivités territoriales, enfin, il y a une combinaison qui s'opère et de complémentarité. Donc, moi, je le poserai pas. Je pense qu'il y a de la place pour tout. Est-ce que l'État doit être interventionniste sur tous les sujets? Je pense pas. L'État soutient les associations. Aujourd'hui, il y a le fonds d'aide pour les associations. Il y a aussi les entreprises et les mécènes qui aident énormément les associations. J'avoue que c'est pas une question que je me suis jamais posée en ces termes. Pour moi, il y a une véritable complémentarité.
Coopération.
Il y a aussi aujourd'hui un mode intermédiaire, toutes les entreprises qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire, qui sont aussi une façon très intéressante de pouvoir, et d'un côté, être complètement autonome financièrement, mais aussi mettre en priorité les enjeux sociaux et de solidarité. Alors, je n'ai pas répondu forcément à votre question, mais moi, je n'oppose pas l'État et les associations. Je les vois plutôt complémentaires et je trouve que finalement, chacun a sa place pour venir en aide à l'ensemble de la population, chacun à son niveau. Et l'État ne peut pas être en proximité de tout non plus.
Est-ce que vous pensez que l'État fait suffisamment pour les associations aujourd'hui? En soutien, j'entends.
Enfin, très honnêtement, on a un pays, pour avoir pas mal voyagé, pour avoir de la famille également, et du côté de Singapour et du côté des US, je peux vous dire qu'on est quand même dans un pays, enfin la France est quand même un pays remarquable, enfin même si je prends les aides qui ont été mises en place hein, pendant 6 mois, alors on peut toujours juger que c'est pas satisfaisant, mais globalement la réaction première c'était de dire il faut venir en aide à chacun. Et au niveau des associations, on voit là aussi, par rapport aux réductions fiscales que l'on peut avoir quand on donne aux associations, c'est une sacrée aide indirecte qui est donnée par l'État aux associations. Dans l'association où j'étais avant, elle fait partie d'un réseau international qui s'appelle Child Fund. Et donc, je comparais avec les autres CIO quels étaient les leviers pour augmenter nos ressources.
Bien sûr.
On parlait de l'abattement fiscal que l'on pouvait avoir sur un don en tant que particulier ou entreprise en France, tout le monde me faisait « waouh !» parce que c'est un véritable levier, que ce soit les entreprises avec 60% ou les particuliers 66% ou 75%. C'est une sacrée façon de l'État d'aider les associations, indépendamment des subventions qui peuvent être attribuées et par l'État, et par la région, et par les départements, et par les collectivités. Mais par ce biais-là, l'État aide véritablement les associations. Et ça, la France est particulièrement chanceuse dans la matière.
Encore une question, si ça ne vous dérange pas. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement, n'avez-vous pas peur que ça ait des répercussions sur la scène internationale, sur la coopération internationale entre les États? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'on peut craindre, qui est quand même un peu tangible, d'un repli des États sur eux-mêmes et d'un retrait de certaines organisations, de coupes budgétaires pour certaines organisations internationales et qui impacterait naturellement les ONG et autres associations? Est-ce qu'on ne peut pas craindre ça dans une certaine mesure?
Le repli que vous évoquez, moi je le crains déjà au niveau de notre pays. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne voudrais pas que à l'aune de... J'agite le spectre de la peur, le populisme... enfin, voilà, que ça soit favorable au populisme. Et ça, véritablement, c'est pour moi une inquiétude.
Bien sûr.
Je le dis raisonnablement, parce que si on se replie tous sur nous, on va tout perdre. Ensuite, on voit que l'Europe, qui a été un petit peu en stand-by ces derniers temps, reprend à plein et reprend toutes ses fonctions et l'Europe a aussi un rôle très important dans l'aide humanitaire.
Bien sûr.
J'ai en tête les enveloppes qui étaient allouées aux différentes associations, aux différents pays, mais l'Europe est un grand acteur de l'aide humanitaire. Oui. Après, que potentiellement il y ait des replis dans certains pays, j'allais dire, on ne peut pas trop en présageait, mais je ne vois pas pourquoi, en tout cas au niveau de notre pays et au niveau de l'Europe, il y aurait un repli du fait de la pandémie. Qu'on prenne des précautions pour se protéger, je suis nature optimiste, qu'on prenne des précautions pour se protéger pendant un temps, en fermant les frontières, en limitant les flux de voyageurs, en prenant des précautions de quarantaine comme on les a prises, hein, pas plus tard que la semaine dernière dans la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, c'est parfaitement normal et ça c'est notre devoir. Ensuite, on sait aussi que si on dégrade cette aide, qu'elle soit dans notre pays ou à l'extérieur, on va absolument tout dégrader. Ce que je ne connais pas aujourd'hui, et je ne suis pas experte en la matière, c'est dans quel état vont être les finances et internationales, et nationales, et locales, et comment on va pouvoir réussir à rester solidaire tout en préservant le bien commun. Ce qui est certain, enfin, je pense, c'est qu'on devra tous faire des efforts et qu'on aura peut-être tous un petit peu à renoncer à certains avantages acquis, peut-être.
Oui, très certainement, oui. Des sacrifices au bénéfice de l'intérêt général.
Moi, je n'aime pas trop le mot sacrifice. Moi, je n'aime pas me sacrifier, mais finalement, on peut peut-être aussi... je pense que la croissance exponentielle est derrière nous. En tout cas, je le souhaite, parce qu'on voit que de toute façon, elle crée une autre forme d'esclavagisme dans tout un tas de pays. Donc, ce n'était pas très, très vertueux. Ça peut être apprendre aussi à consommer différemment. J'imagine aussi que là, pendant ce temps de confinement, on a moins consommé, on n'était pas forcément plus malheureux. Peut-être se réinterroger sur tout un tas de choses.
Certainement. Eh bien, Madame Provendier, merci beaucoup pour cette interview. C'est très intéressant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure?
Alors, comme je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas grand-chose. Je vous le dis, donc j'ai vu qu'il y avait des petits cœurs, des gens qui se connectaient.
Plein de petits cœurs.
Je voulais remercier les gens qui m'ont écouté. Je voulais vous remercier, vous.
Avec plaisir.
Je voulais dire que la façon dont je vois mon mandat, c'est certes, je siège à l'Assemblée, mais ce qui est important pour moi, c'est tous les échanges que je peux avoir avec mes collègues, concitoyens, etc. Parce que c'est comme ça aussi que ça nourrit le travail d'un député. Donc, merci pour vos questions.
Merci. Avec plaisir. Merci à vous.
M'exprimer. Et puis, ouais, je partagerai un mot qui est Outreia. Outreia, c'est un mot qu'utilisent les jacquards, ceux qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui veut dire, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça tout d'un coup, mais ça me vient comme ça, dépassement du corps
et des droits.
Et je pense qu'en se dépassant tous, on trouvera des solutions intéressantes.
C'est une très belle conclusion, en tout cas. C'est peut-être pour ça que ça vous est venu à l'esprit. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère.
Au revoir.
Au revoir. Très belle soirée. Merci.
Oui, au revoir.
C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir.